salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, les piétons dans la ville, indésirables ou prioritaires, grand point d'interrogation. Ça dépend des villes, ça dépend des continents, entre les quartiers aménagés pour marcher, se partager l'espace dans des villes d'Europe du Nord, et puis les piétons des villes africaines excédés par les transports publics. Tout le monde ne marche pas pour les mêmes raisons. Nous en parlons avec l'architecte bien nommé Jean-Jacques Terrain. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez étudié la marchabilité de villes comme Londres, Copenhague, Amsterdam, Vienne, Paris. Et vous publiez un ouvrage collectif qui s'appelle « Le piéton dans la ville, l'espace partagé » en édition bilingue français-anglais. Vous êtes aussi chercheur associé à l'école d'architecture de Versailles, à Montréal et à Tirana, en Albanie. Et également avec nous un spécialiste des transports dans les villes africaines. Bonjour Amakoué Adoleoumé.
Bonjour, bonjour les voisins et les voisines.
Et vous êtes, vous, spécialiste des transports en Afrique. Enfin, finalement, la marche est aussi un mode de transport. Hein. Vous êtes enseignant à l'école des ponts et chaussées de Marne-la-Vallée et à Lyon 2. Vous travaillez dans le laboratoire de l'économie des transports qui s'appelle le CITRAS, que vous coordonnez. Et puis, on fera aussi un détour par le Brésil. 600 piétons tués chaque année à São Paulo. Les voisins et les voisines, évidemment, on attend vos témoignages de piétons dans votre ville. Marchable ou pas, d'ailleurs, votre ville, c'est à vous de nous répondre. Vous nous appelez tout de suite au 33 1 84 22 71 71. Déjà quelques messages arrivés sur les réseaux sociaux que je vous livre comme ça en brut, des messages qui arrivent du continent africain. Alors Amakoué, si vous voulez commenter, un internaute congolais nous dit ceci: Kinshasa ou la ville de l'anarchie de la route pourrait être le nouveau film du futur Spielberg congolais, car il ne s'agirait pas d'un documentaire mais bien d'un scénario surréaliste, même si c'est le quotidien des Kinois. Boulevard de la mort, poursuit l'internaute, voiture et taxi, bus se garant n'importe où, n'importe comment sur les trottoirs pourtant réservés aux piétons, policiers devenant agent de désordre, je cite, travaux routiers exécutés en dépit du bon sens, provoquant des embouteillages monstres avec des chauffeurs non courtois et toujours plus pressés que vous, les piétons. Voilà. Kinshasa, vous connaissez Amakoué Adoleoumé?
Kinshasa, bon, je connais pas personnellement, mais nous avons travaillé il y a quelques années quand même sur quelques villes africaines, donc Kinshasa, où on a effectivement regardé de près cette ligne 11 que les Kinois appellent ainsi par rapport aux 10 lignes qui existaient du temps où il y avait l'entreprise de bus. Donc il y avait 10 lignes de bus,
ça,
et la ligne 11 était la
transport.
Marche à pied.
La ligne 11 marche à pied. Zakaria est à Dakar. Alors lui nous dit que Dakar est devenu vraiment une belle ville, très accueillante et surtout agréable pour marcher le long des trottoirs. Bon travail, monsieur le maire. Alors ceci dit, les vendeurs ambulants qui encombraient les trottoirs ne sont pas forcément du même avis. Avis à tous les éjectés du trottoir, vous pouvez aussi nous appeler d'ailleurs. Daouda, au Cameroun, à Douala, nous dit Daouda, le piéton est oublié par les gestionnaires de la ville. Les trottoirs sont occupés par les véhicules qui le transforment en parking et par les vendeurs à la sauvette. Ibrahim à Ouagadougou, Burkina Faso, il n'y a pas de trottoir pour piétons, nous dit Ibrahim. Cet espace est aménagé pour les deux roues, vélo et moto. Ou encore Raphaël, en Haïti, quand on est piéton, notre vie est risquée. C'est vraiment grave. Appelez-nous maintenant au 33 1 84 22 71 71. La parole est aux piétons. Jean-Jacques Terrain, vous qui sillonnez la planète en tant qu'architecte, si je vous demande dans quelle ville vous aimez marcher, vous déplacer, vous personnellement?
C'est une réponse qui n'est pas si évidente que ça. On n'est pas piéton univoque et on ne marche pas de la même façon selon que ce soit le jour, la nuit, avec un enfant, avec sa femme, pour faire du jogging, etc. Donc il y a des villes qui sont très agréables à visiter et dans ce cas-là, on a envie de vivre une intensité forte, des émotions, des choses sensibles. Et là, toutes les villes que l'on connaît, que ce soit en Asie, Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, sont des villes intenses où on a envie de marcher. Par contre, si c'est vrai que des villes comme Vienne, en Autriche, Copenhague, sont bien sûr des villes où il est très agréable de marcher parce qu'elles sont faites pour ça. Elles sont construites et aménagées pour ça. Et finalement, si on devait faire la grande synthèse, peut-être que New York est la ville qui ferait le plus grand effort pour concilier toutes ces visions de la ville piétonne.
Et où il y a cette effervescence aussi intéressante pour le marcheur, ce qui n'est pas forcément le cas à Vienne. Mais alors, quel est l'enjeu du piéton dans les villes développées, finalement, depuis quelques années? Comment se sont succédés les modes pour laisser une place plus ou moins importante aux piétons?
Vous savez,
c'est difficile pour vous de résumer, mais...
Oui, mais en deux mots, dans les villes ont subi cette accélération fantastique du 18e siècle aujourd'hui. Il y a un sociologue spécialisé dans le transport allemand, Rosa, qui dit que l'espace s'est rétréci de 60 fois plus petit à cause de la vitesse des transports depuis le 18e siècle. C'est énorme. Et puis tout d'un coup, on découvre la lenteur depuis peu.
On redécouvre
que la lenteur est quelque chose de positif.
Mais c'est pas en contradiction avec la modernité demandée par la ville, réclamée par la ville?
Absolument. Donc il y a cette espèce de télescopage du mythe de la vitesse et de certains plaisirs de la lenteur. Et donc les villes aujourd'hui ont pour difficulté, pour stratégie, de privilégier les deux, la vitesse. Parce que on a envie d'aller le plus vite possible à son travail, dans son école, à l'université, faire son marché. Et puis, le flâneur est devenu une valeur. Et donc, comment concilier ça? Et il y a des villes qui sont pas forcément faites pour le piéton, qui ont des véritables stratégies pour allier les deux. Des villes comme Vancouver, New York, dont on parlait un instant, Melbourne, Londres, qui sont faites vraiment maintenant pour la voiture et qui maintenant concilient les deux sans se piétonniser pour autant à 100%.
Ouais. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu la mode des quartiers où on fermait carrément l'accès à la voiture, c'est-à-dire des quartiers piétonniers. Ça se fait plus du tout?
Alors, une ville comme Copenhague, qui a inventé la zone piétonnière dans les années 70, aujourd'hui parle plutôt de quartiers pauvres en voiture.
C'est-à-dire
des voitures où la voiture n'est plus la reine, mais on admet qu'elle puisse venir pour des raisons d'urgence, par exemple pour les personnes handicapées, par exemple pour les femmes qui doivent emmener leurs enfants chez le médecin. Donc elles peuvent quand même. Donc c'est pauvre en voiture. Et par contre, le piéton devient le vrai. J'allais dire les talons, c'est peut-être pas très joli, mais de la mobilité urbaine.
Mais à la demande des habitants ou à la faveur de quoi finalement? L'augmentation des prix de l'essence, qu'est-ce qui a amené à se repréoccuper des piétons?
Mais la marche, finalement, ces villes découvrent, et alors là on s'en amusait tout à l'heure, mais on en parlera plus sérieusement tout à l'heure, les villes européennes, nord-américaines, qui sont développées, qui ont tout essayé, découvrent tout d'un coup la marche, et découvrent que la marche est sain, est facile à mettre en place, n'est pas coûteux. Et donc, les villes déclarent, je reparle de Copenhague, dit, nous allons développer la marche en ville. Vancouver va développer, est en train de développer dans des proportions énormes.
Des villes riches qui se déclarent pauvres en voiture, hein, évidemment, ça fait sourire le spécialiste des transports en Afrique, Amakoé Adoléoumé.
Oui, en fait, quand on parle de ces modes de déplacement, notamment quand on regarde un peu le problème de la marche dans la ville africaine, ça repose plus fondamentalement le problème de la pauvreté, parce que on dit là, quand on ça transparaît dans les études que nous menons souvent au niveau du réseau Citra sur différentes villes africaines, on voit très bien que le premier mode de déplacement en Afrique, c'est la marche. Quand on regarde un peu la répartition des mobilités, des déplacements par mode de transport, la marche vient en premier, quelle que soit la ville, à la différence près de ce que nous avions vu sur Ouagadougou. Mais c'est un peu symptomatique de cette ville où le deux roues, que ce soit motorisé ou la bicyclette, est un peu plus développé que dans les autres villes. Mais cela étant, la marche est le premier mode de déplacement.
Parce que aussi, c'est le mode de déplacement des plus pauvres.
Des plus pauvres, voilà.
Qui sont les plus nombreux.
Et que, vu l'aménagement même de nos villes africaines, on se retrouve dans une situation paradoxale où nous avons un centre-ville où sont concentrés les emplois, les services, les hôpitaux, les marchés, des trucs comme ça, qui sont concentrés dans ce centre-ville. Et les pauvres qui sont de plus en plus rejetés très loin de ce centre-ville où il y a les emplois. Et donc les pauvres, ce que je dis souvent dans mes cours aux élèves, on croit que parce qu'ils sont pauvres, ils ne se déplacent pas. Mais c'est pas vrai, parce qu'ils sont pauvres, ne serait-ce que parce que pour ça, ils sont obligés de se déplacer pour aller chercher du travail. Il faut bien qu'ils vivent. Et ils se déplacent autant que les non-pauvres, mais la différence se fait au niveau des conditions de déplacement. Ils se déplacent moins bien que les non-pauvres.
Alors, ceci dit, voilà. À Paris, vous me dites si je me trompe ou pas, Jean-Jacques Terrain, mais j'ai vu que selon une étude de l'INSEE de 2008, donc quand même assez récente, 47% des trajets intramuros se font à pied. Donc, la marche aussi est quotidienne pour la plupart des habitants.
En tout cas, par portion. Absolument. La marche, mais je crois qu'il faut prendre conscience du fait que les responsables politiques des villes occidentales considéraient jusqu'à présent la marche comme un élément évident, bien sûr, mais relativement négligeable dans leur stratégie de l'aménagement urbain. Aujourd'hui, l'espace public est considéré aujourd'hui majoritairement par la plupart des villes en Europe, en Amérique du Nord, comme des villes qui doivent être faites pour les piétons, ouais. Donc il doit être confortable.
D'où l'intérêt de ne pas encombrer les trottoirs par trop de bancs de mobilier urbain, etc.
Et alors ça change complètement. Alors je vais vous prendre un exemple. Amsterdam est une ville du vélo. Tout le monde le sait. Bien. Et la ville d'Amsterdam a décidé de développer une nouvelle stratégie de mobilité urbaine. Et elle considère du coup que le piéton, qu'il soit touriste, qu'il soit étudiant, qu'il soit professionnel, doit être privilégié. Ça veut dire deux choses pour la ville. Ça veut dire premièrement que le vélo n'est plus privilégié. Donc on va créer des voies rapides pour les vélos, pour ne pas encombrer les voies piétons. Ce qui est l'inverse de ce qu'il se faisait jusqu'à présent.
C'est la fin de la petite règle.
Et puis deuxièmement, excusez-moi, du coup, les espaces publics sont vides. C'est-à-dire qu'on supprime tous les édifices que l'on faisait, tous les sémaphores. Il n'y a plus de lampadaires à Amsterdam dans les nouveaux espaces.
Et comment c'est clair ?
On accroche
c'est ça
les luminaires
pour pouvoir marcher plus facilement ou rouler si on est à bicyclette. Voilà. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, si vous êtes piéton ou si vous aimeriez bien être davantage piéton. 33 1 84 22 71 71.
Every time I see your eyes, ain't got no chance, you steal my heart. Every time I taste your smile, an angel takes me to the stars. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow if you don't stay right here with me, ain't got no chance to be.
J'ai trop bu, stop drinking now. I want to be l'ami d'un Italien. Accompagne-moi à Rome ce soir.
Now remember what we were, I'm on the ground, I hit the ground. Thank you, Mr. Odyssey, inside your soul I found my sound.
Tell me how can I see
got the chance to be.
Ça ne s'entend pas, mais il est italien, Raphaël Gualazzi, l'ami d'un italien. 33 1 84 22 71 71. Vous nous appelez pour nous parler de votre situation de piéton dans quelques villes où que vous résidiez. On est en ligne avec Patrick qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Patrick.
Bonjour Daniel, bonjour à tous mes voisins.
Alors Patrick, si nous faisons cette émission aujourd'hui, c'est grâce à vous, parce que vous nous avez proposé ce sujet. Vous nous avez dit, j'en ai marre, je suis piéton à Abidjan, c'est l'enfer. Que vous est-il arrivé?
Ben, voici ce qui m'arrive depuis quelques mois. Depuis l'année dernière, j'ai commencé véritablement à faire mon footing à l'extérieur. Et je me suis rendu compte que il est dangereux d'être piéton à Abidjan, parce qu'on se fait cogner carrément. Mmh. Moi, je me suis fait cogner maintes fois. Je me suis retrouvé sur les capots des véhicules, qui n'arrivaient pas à comprendre qu'un piéton, sa place est sur le trottoir.
Alors c'est vrai que faire du footing à Abidjan, je reconnais que c'est assez osé, surtout par rapport à Dakar, hein, où on voit les joggeurs en masse le long de la corniche, courir le long de la mer, où là c'est vraiment sécurisé, il y a une énorme esplanade, loin des voitures. Mais alors à Abidjan, je me demande effectivement comment vous faites.
En y arrivant bien que mal, mais c'est à nous piétons de faire attention aux véhicules qui arrivent sur le trottoir. C'est ça le paradoxe. Eux ne font pas attention à nous, mais c'est à nous de faire attention à eux. Mmh. Et si tu ne quittes pas le trottoir, ben, tu es menacé. Et comme je l'ai dit, j'ai été cogné. Et moi, je me dis que si on ne leur quitte pas le permis de conduire, on leur donne le permis de cogner. Et c'est ce qu'ils font. Ils nous menacent du terrorisme de la route.
Quand vous dites cogner, vous avez été carrément renversé par une voiture en marchant ou en courant dans Abidjan?
Comme je suis assez malin, quand ils me cognent, je m'assois carrément sur leur capot. Il y en a qui m'ont traîné sur des mètres, assis sur leur capot.
Ah oui, oui, vous avez le sens du risque, voilà. Effectivement, Patrick.
Voilà, c'est vous dire que être sur le trottoir, c'est dangereux, surtout quand il y a un embouteillage. Alors je me demande, est-ce qu'à la limite, quand il y a les embouteillages dans les auto-écoles, on leur enseigne qu'en cas d'embouteillage, vous êtes autorisé à connaître tout ce qui est sur le trottoir et de passer sur le trottoir. Parce que c'est devenu une loi systématique en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout, quand il y a un embouteillage, même quand il y a un petit ralentissement, automatiquement, les véhicules, ceux qui font le transport, passagers, là, et bien, ils passent carrément sur le trottoir.
Alors, attendez, à la décharge quand même des automobilistes, il y a des embouteillages absolument monstrueux maintenant à Abidjan. Je crois qu'on peut rester coincé deux heures sur le pont au-dessus de la lagune.
Hein. J'ai vécu à Accra.
Ouais.
Et je sais ce qui se passe aussi à côté, juste à côté de nous.
Alors,
il n'y a pas ce comportement parce que la population même est consciente qu'aucun véhicule n'a le droit de passer par là. Donc, il y a une grande sensibilisation à faire auprès des populations elles-mêmes, auprès des automobilistes et auprès même des autorités policières qui sont parfois présentes, qui nous regardent, empêtrés avec les véhicules et qui ne disent rien.
Alors, vous avez lancé un mouvement, Patrick, les trottoirs aux piétons, c'est un mouvement informel?
Les trottoirs aux piétons, oui, depuis le début de l'année. Et j'essaie de convaincre des entreprises ou des autorités locales pour s'impliquer. Même le maire actuel, celui qui est le maire de ma commune, qui a été élu avant les élections, on s'est rencontré à une manifestation culturelle où je lui ai remis le document, la documentation. J'attends que les maires s'impliquent dans cette campagne.
Ah oui, bonne question. À Makoé Adoléoumé, vous, comment vous réagissez à ce témoignage?
Ouais, voilà un témoignage qui nous édifie sur les difficultés de circulation des piétons dans nos villes africaines. Ça, c'est le cas d'Abidjan. Il n'est pas si atypique que ça. On retrouve la même chose dans d'autres villes. Mais cela, c'est ce que je disais, ça le repose dans ces villes-là. Le premier mode de transport est la marche. C'est les piétons les plus nombreux. Et on se rend compte qu'on leur accorde pas cette importance qu'il fallait pour une population aussi nombreuse sur ce mode de transport.
Est-ce que les maires des villes commencent à s'interroger sur la situation des piétons dans les villes en Afrique ou pas du tout?
Je veux bien que les maires s'en occupent, mais pour le moment, les piétons, je crois qu'ils ne voient pas vraiment
cette
prise en compte. Je dirais pas que c'est pas une priorité. Peut-être qu'ils ne savent pas trop bien comment appréhender le problème. Ouais. On a des trottoirs quand moi je vais à Dakar, vous avez des trottoirs qui sont occupés par des petits commerçants.
Donc quand vous allez commencer par partiellement éjectés.
Ils sont revenus, Emmanuel. Ouais.
Donc, sur le papier, en tout cas, ils ont été éjectés.
Ils reviennent.
Jean-Jacques Terrain à Mako et Adoléoumé. Mais vous restez avec nous. Merci à vous, Patrick, pour votre témoignage. Suite de l'émission, juste après le flash, on rend l'antenne là pour les 3 minutes du flash. Le piéton dans la ville, vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Restez avec nous, à tout de suite. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, les piétons dans les villes aujourd'hui, comment sont-ils traités dans les villes du nord au sud? La place accordée aux piétons présage-t-elle finalement de l'intelligence d'une ville? C'est une vaste question. Dialogue entre un architecte et un économiste des transports, Jean-Jacques Terrain et Amakoé Adoléoumé. Tiens, je vous lis aussi le message de Badou au Sénégal, arrivé sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, nous dit Badou, les routes sont pour les mendiants, les marchands ambulants et autres. C'est pourquoi les enfants âgés de 7 à 10 ans se font frôler par les automobiles. Et l'État doit tenir compte de cela. Direction tout de suite le Brésil, où les villes ont poussé très vite, comme vous le savez, depuis une décennie, sans véritable planification. Bonjour François Cardona.
Bonjour Emmanuel.
Alors François, les piétons sont-ils relativement bien traités au Brésil ?
Eh bien, la réponse malheureusement est clairement non. Les piétons sont même parfois tout à fait indésirable dans les grandes villes brésiliennes, où presque parfois rien, ou presque parfois n'a été prévu pour eux. À Brasilia, par exemple, la capitale, c'en est le parangon. Les espaces verts sont certes immenses, les esplanades entre les bâtiments administratifs sont sans fin avec ces célèbres et superbes perspectives que l'on doit à feu Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien mondialement connu. Et bien pourtant, la ville brille par l'absence de piétons sur ses trottoirs. La voiture est omniprésente, car sans elle, on ne peut parcourir les longues distances qui séparent chaque bâtiment, des bâtiments futuristes qu'offre cette ville moderne construite dans les années 60, mais pas du tout pour les piétons.
Et dans les autres villes brésiliennes, les piétons sont logés à la même enseigne, François ?
Eh bien, une enquête a révélé l'année dernière que dans l'ensemble des grandes villes brésiliennes, les trottoirs brillaient par leur absence ou par leur cruel manque d'entretien. Une vaste enquête effectuée dans plus de 100 villes dans tout le Brésil, à laquelle d'ailleurs ont pu participer les Brésiliens eux-mêmes. Ils ont envoyé des cartes de leur quartier avec des photos qu'ils avaient eux-mêmes prises, et sur le site dédié, le site en ligne, on ne compte plus les commentaires acides, parfois amers, qui accompagnent les photos de ces immenses trous dans les trottoirs, souvent complètement effondrés.
Et à São Paulo, la capitale économique, mégalopole en croissance permanente avec ses quelques 20 millions d'habitants à la louche au Brésil. Là, c'est quand même une ville riche. Désormais, les piétons sont-ils un petit peu mieux traités ?
Eh bien, en fait, pas du tout. Hein. Ils sont peut-être même moins bien traités que les voitures. L'association des piétons brésiliennes affirme même que chaque année, environ 600 piétons y meurent percutés par des voitures. Et l'association de souligner que plus de 30% des victimes sont âgées de plus de 60 ans. La conclusion qui s'impose, selon elle, est toute simple. Si vous êtes vieux et lent, trop lent pour traverser en courant la rue, alors vous êtes une victime toute désignée pour les automobilistes. À Rio de Janeiro, on y voit même parfois une chasse aux piétons, une véritable chasse. Ils n'ont aucun droit ni priorité face aux voitures. Les taxis s'amusent même à accélérer parfois quand un piéton traverse afin de lui montrer qui est le roi de l'asphalte. Eh bien, évidemment, la voiture. Alors, sans compter que cette ville qu'on dit merveilleuse ne compte quasiment aucune zone ni rue piétonne. Et même sur les bords de plage, à Copacabana et Ipanema, les fameuses plages de Rio de Janeiro, les pistes cyclables sont devenues de véritables autoroutes avec des vélos, des skates, des joggers, et les piétons distraits se font huer et parfois même renverser s'ils ont le malheur de ne pas regarder de chaque côté lorsqu'ils sortent de la plage, du sable plein les pieds. Alors désormais, seul havre de paix pour les piétons au Brésil, les shoppings, les malls et les autres centres commerciaux qui poussent ici comme des champignons, boostés par l'augmentation de la classe moyenne ces 10 dernières années. Et dans ces centres commerciaux, on y accède en voiture, bien sûr. Pour les piétons, fini le ciel bleu et les grands espaces, dans les grandes villes en tout cas.
Eh ben, quel tableau ! Marcher sous les néons pour alimenter le commerce. Voilà comment restreindre la liberté des piétons. Merci beaucoup François Cardona, correspondant au Brésil pour RFI. Jean-Jacques Terrain, que vous inspire le traitement réservé aux piétons au Brésil ? Vous êtes d'accord avec ce tableau peu reluisant ?
On n'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est un chaos absolument total. Et on voit mal effectivement quelle est la solution. Je crois qu'il faut tout de même prendre en compte le fait que une transformation d'une ville, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines et en quelques années. Je voudrais juste vous faire une petite citation d'un Allemand Walter Benjamin, qui adorait Paris, dans les années 30, 1930, dit...
Ouais, c'était les un trottoirs, village à l'époque. Hein.
Ouais, les trottoirs furent certainement installés dans l'intérêt de ceux qui allaient en voiture.
C'est-à-dire ?
C'était que, on a mis des trottoirs pour reléguer les gens qui marchaient de façon à laisser passer les voitures. Donc, je crois qu'il faut considérer que les trottoirs n'ont jamais été conçus pour protéger les piétons, mais bien pour faire circuler les voitures tranquillement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis que la voiture existe pratiquement. Et donc ce chaos, il est naturel. Il est naturel de vivre un chaos. Alors par contre, est-ce que on le laisse se propager? Est-ce qu'on le laisse se développer? Pour les villes, c'est un problème. Quasiment insoluble quand on voyage et que l'on voit. Moi, j'étais à Téhéran il y a quelques mois pour un colloque sur le piéton dans la ville en plus.
À Téhéran.
À Téhéran. Mais je suis reparti de là absolument catastrophé en disant mais il n'y a aucune solution imaginable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais être un peu philosophe parce que sinon on baisse les bras. Moi, je pense que l'espace public partout dans le monde entier est un espace politique. Regardez les printemps arabes, regardez la place de Mai à Buenos Aires, regardez la place de la République à Paris, c'est un espace politique. Donc, on ne trouvera des solutions que si le piéton se considère comme un personnage politique et prend en main son destin. Alors, je dis pas que c'est facile, mais ça se fera obligatoirement. Et ça s'est fait et ça se fera.
Et en même temps, plus c'est un espace politique, plus les décisions sont politiques, plus c'est lourd de prendre des décisions. Exemple à Paris.
Oui. Mais voyez, oui, c'est vrai que c'est difficile. Plus les villes sont grandes, plus...
Bordeaux, c'est une ville plus agréable pour les piétons, par exemple, que Paris.
Bien sûr, parce que les circuits de décision sont plus courts, parce que les sujets à traiter sont plus faciles. C'est plus facile de régler les problèmes, les bords de Garonne, que la circulation...
Il y a moins d'enjeux politiques derrière aussi, quand même, non? Moins de luttes intestines.
Les luttes intestines sont propres aux politiques, où qu'on soit.
Alors, vous nous appelez les voisins, les voisines, au 33, hein, 84, 22 71 71 pour ce sujet à la fois très quotidien et très politique, nous disait l'architecte. Nous accueillons Eugène qui est à Douala au Cameroun. Bonjour Eugène.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons Eugène.
Tel que je vous le disais, au Cameroun, depuis l'avènement des Chinois avec des milliers, des millions d'ailleurs de motos, on a l'impression que le piéton n'a pas de place, évidemment, parce que déjà, à partir de l'état des routes, les motos sont pratiquement sur les trottoirs. Mmh. Et ça, je vais vous le dire, c'est vérifiable. À Douala, c'est même les piétons qui marchent sur la chaussée, les véhicules et les motos sur les trottoirs, parce que l'état des routes ne permet même plus aux motos et aux véhicules de marcher sur la chaussée.
Ouais, c'est le monde à l'envers.
C'est vraiment dommage, mais c'est ça. Mmh. Alors, moi, ce que je souhaite, hein, parce que pour que le piéton redevienne quelqu'un de moral, parce qu'il y a une trentaine d'années, moi, j'étais à l'école primaire, on nous apprenait l'éducation physique et la morale. Moi, j'ai retenu cela jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire si je veux traverser la route, je regarde à gauche, je regarde à droite avant de traverser, ce réflexe est resté, il n'existe plus. Et en plus, à Douala, particulièrement aujourd'hui, je suis un petit commerçant, j'ai fait venir 2-3 personnes à la métropole, et puis c'est un petit neveu, c'est un petit cousin, je lui donne une moto, il n'a jamais conduit, il n'a aucune notion de permis de conduire, et puis voilà, paf, un jeune écolier de 18 ans qui n'a pas de notion d'intuition physique, qui ne sait pas qu'avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite, et puis c'est l'accident. Eux-mêmes, ces conducteurs de moto.
Donc réintroduire une éducation à la circulation en général, mais
absolument.
C'est...
Voilà. Absolument. Il y a un système de communication qui doit être mis en place pour l'éducation des piétons et surtout la sensibilisation, parce que si c'est pas fait, d'ici quelques années, ce sera de la catastrophe.
Ouais. Réintroduire donc une sensibilisation à la circulation, mais c'est pas pour autant une sensibilisation des pouvoirs publics pour réintroduire du partage de l'espace public à Mako et à Doléoumé.
Oui, justement là, si on est dans les cas africains, notre collègue de Douala qui parle du cas des Benskin, donc de ces deux roues motorisées qui créent aussi des accidents et qui occupent la place des piétons. Donc la prise de décision, malheureusement, si on peut dire, dans nos pays, ceux qui doivent prendre la décision pour pouvoir donner une place aux piétons sont ceux-là même qui sont en voiture au niveau du pouvoir. Donc les premières décisions qu'ils vont prendre, c'est de voir comment eux, en mode motorisé, ils peuvent circuler mieux avant de préserver les piétons.
Alors ça, c'est pas propre d'ailleurs aux villes africaines. Voilà, ceux qui sont au pouvoir sont en voiture. En tout cas, c'est le cas pour de nombreuses capitales européennes, mais peut-être pas d'ailleurs en Europe du Nord. Je ne sais pas, Jean-Jacques Thérin, où les ministres sont fréquemment à pied, n'ont pas le droit de prendre un taxi. Je pense à la Norvège, si c'est pour parcourir une toute petite distance, ils doivent y aller à pied ou en métro.
Oui, mais vous savez, on prend toujours comme exemple les villes du Nord. Ce sont des petites villes qui font moins d'un million d'habitants, dans lesquelles il y a une convivialité qui est absolument invraisemblable, une densité très faible, une place de la nature très importante. Donc je crois que c'est très difficile de faire des comparaisons. Raison et des. Par contre, prenons New York. New York, c'est pas le politique qui a décidé de transformer New York. C'était dans les années 70. Ce sont des communautés qui se disaient elles-mêmes guérilleros. Des communautés qui ont décidé de faire des jardins dans la ville, de faire des espaces de circulation pour les vélos, les piétons. Ce sont des guérilleros qui ont fait ça. C'est comme ça qu'elles se sont désignées. Et c'est à travers ça, à travers ce que le cinéma ensuite, la littérature a récupéré et donc a généralisé, a multiplié en information. C'est grâce à ça que les habitants de New York ont transformé leur ville. Et les politiques n'ont fait que suivre.
Je vous livre des messages qui arrivent en direct sur les réseaux sociaux. La Meriem qui est en Italie, alors je ne sais pas à quelle ville elle fait référence. Les passages piétons devant les écoles ne sont pratiquement jamais respectés. S'il n'y a pas les vigiles, les parents qui pourtant viennent devant l'école chercher leurs propres enfants en voiture coupent systématiquement le chemin aux enfants qui traversent. Parfois cette attitude provient des vigiles eux-mêmes. Voilà, ça râle beaucoup sur le fil Facebook et y compris dans des pays comme l'Italie. Mais là finalement ça introduit la notion d'ordre public.
D'ordre public et de la relation aux citoyens, tout simplement. Les mouvements, je vous parlais des rebelles new-yorkais, mais je prends un autre exemple si vous permettez. Les mouvements féministes autrichiens se sont emparés du fait en question de la ville et aujourd'hui ont imposé, dans une ville comme Vienne, ont imposé un bureau de la femme parce qu'ils ont expliqué que ce sont les femmes qui savent où les voitures s'arrêtent devant les écoles, comment on va chercher une personne âgée et on l'amène à tel endroit, où on fait les courses et où on laisse la voiture. Et donc, ils ont demandé à ce que les femmes soient interrogées à travers des panels qui sont organisés à chaque projet qui va être fait, que ce soit la mise en place d'un abribus, que ce soit le passage piéton ou que ce soit un projet d'urbanisme plus important. Elles sont consultées désormais pour donner leur avis sur la question et elles sont suivies. Et le bureau de la femme se trouve dans l'hôtel de ville de Vienne.
Exemple d'innovation technologique pour les piétons aujourd'hui dans des villes développées, Jean-Jacques Thérin. Alors là, on est sur la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, mais est-ce qu'il y a aussi des vraies idées technologiques, des vraies trouvailles?
Oui, là, il faut aller plutôt du côté de Londres. Qui avec les Jeux Olympiques ont créé une structure, une institution qui s'appelle Walking London. Il y a bien avant d'ailleurs les Jeux Olympiques, mais qui ont dû trouver son apogée au moment des Jeux, dans lequel ils ont mis en place toute une série de technologies qu'on commence à voir se développer d'ailleurs à Paris, de cartes interactives,
avec des applications pour les smartphones, des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, des relations entre. C'est-à-dire le piéton, ils ont réalisé que le piéton était en fait un personnage avec plein de prothèses numériques, et donc il fallait utiliser ces prothèses. Le téléphone en est une, mais le portable. portable, laptop aussi.
Un piéton et un consommateur. Parce qu'évidemment, quand on marche, c'est une aubaine, non, pour les magasins, pour le commerce, le petit commerce.
Bien entendu. Ouais.
Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71. Carole sur le réseau social nous dit: mon voisin camerounais qu'on a entendu tout à l'heure a tout dit, c'est une vraie galère chez nous au Cameroun pour se déplacer sur les trottoirs, les mototaxis circulent même sur la voie bétonnée. Voilà confirmation des messages.
Let me tell you that when I met you I was staring at the boys playing guitar singing beautiful love songs and looking at me with some stars in their eyes, but you're such a beautiful woman with such a beautiful voice, even if you don't play the guitar, I felt something moving in my panties. Got the blues, got the blues, got the blues, thinking of you. Let's pretend that I'm a boy. When I see you I feel joy. My baby, let me tell you I'm in love with you. Let me sing again all my love for you. When I see you I feel in my heart such a great emotion. I can't believe it, I got the blues. If I tell you I'm a little girl who loves a woman, let me get the blues, baby. Let me get the blues, baby. Let me get the blues. Thinking of you, I could cry every last tear I'm keeping in this little, 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 little heart of mine. In this little, 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 little heart of mine. My baby, let me tell you.
June and Lula chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de la dure vie, ou pas d'ailleurs, des piétons selon les villes, selon les continents. Marcher dans certaines villes peut être un enfer. On en parlait pendant le disque là avec vous à Makoé. Évidemment à Kinshasa, on recevait le message d'Emmanuel de Kinshasa qui nous parle de ces taxis qui roulent sans permis de conduire et qu'on appelle les esprits de la mort. Évidemment, il fait pas bon croiser la route d'un taxi lorsque l'on est piéton à Kinshasa. Puis il y a énormément de travaux en ce moment. Mais toutes les villes africaines ne sont pas logés à la même enseigne. Il est plus aisé, plus agréable de marcher dans le centre-ville de Ouagadougou, par exemple.
Effectivement, toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne que Kinshasa, mais cela repose aussi le problème de la taille des villes. Kinshasa n'est pas Ouaga. Kinshasa, c'est plus de 6 millions d'habitants, et Ouaga, c'est à peu près le tiers de cette population-là, peut-être 1,5 million ou 2 millions au plus sur Ouaga. Donc, la taille de la ville aussi explique un peu l'anarchie et le désordre qu'on peut constater en matière de déplacement urbain dans ces villes-là. Mais ça ce qui peut l'expliquer aussi, c'est la possesse, les modes de déplacement qu'on a. Si vous prenez une ville comme Ouagadougou, où l'équipement individuel en mode de déplacement tel que le deux roues ou le deux roues motorisé ou la bicyclette, les Ouagalais sont très très friands de ce mode-là.
Oui,
ce
c'est qui, une spécificité voilà, d'ailleurs
c'est une
à Ouaga,
spécificité
le vélo,
de
hein,
Ouaga parce... et les trottoirs effectivement sur certains axes sont bien dégagés, mais pas sur tous les axes. Mais ça repose aussi plus fondamentalement le problème de l'aménagement dans nos villes africaines. Alors, il n'y a pas un mois, moi j'étais dans une de villes africaines où vous savez maintenant le privé qui construit de plus en plus de ses établissements publics. Donc je vois un hôtel qui était construit dans une de ces villes africaines. Je vois cet hôtel d'une centaine de chambres. Et il y a à peine une dizaine de places de parking devant l'hôtel et cet hôtel organise souvent des conférences. Et quand vous savez qu'il y a des conférences, il y a plein de participants qui arrivent en voiture. Donc les voitures sont garées sur le trottoir et sur la chaussée et les piétons doivent circuler entre ces voitures garées.
Et pas d'obligation au moment de l'octroi des permis de construire.
C'est vraiment le problème de l'aménagement du territoire.
Jean-Jacques Terrain, vous rendez souvent à Tirana, capitale de l'Albanie, aux portes de l'Europe, mais loin de l'Europe tout de même.
Oui, un peu aux marges de l'Europe. C'est un exemple intéressant parce que il est effectivement dans un espace intermédiaire.
Avec un mode de gouvernance quand même assez chaotique par rapport aux villes européennes.
Donc la ville de Tirana est sur le plan de la circulation absolument chaotique parce que la circulation... et c'est ça qui n'est pas acceptable, c'est que l'espace public a été simplement donné aux voitures sans aucune contrepartie. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Alors, évidemment, c'est facile, on donne. Ça coûte rien. Mais c'est ça qu'on ne peut plus accepter et qu'on ne devrait plus accepter. Par contre, ce que je voudrais dire aussi sur Tirana, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est que une grande partie de la ville, qui est elle aussi tout à fait chaotique, a été construite d'une façon informelle, c'est-à-dire sans plan d'urbanisme, comme c'est le cas dans beaucoup de villes d'ailleurs ailleurs. Mais là, il y en a cet effet très vite en quelques années et donc. L'espace public du piéton a été quelque part préservé d'une façon un peu miraculeuse. Et donc, il faut le conserver. Parce que la tendance, c'est de faire passer le piéton dans les malls commerciaux dont vous parliez tout à l'heure. Non, il faut les garder là. Et là, il y a un travail très intéressant à faire, qui doit être possible au Brésil, qui doit être possible à Ouagadougou et ailleurs.
33 84 22 71 71, on accueille un dernier auditeur. Jean est en région parisienne. Bonjour Jean.
Bon, alors je vous appelle du sud, mais du sud de l'aéroport d'Orly. Alors je voulais simplement rappeler quelque chose que l'on pouvait voir écrit sur tous les autobus il y a quelques années. Tous les piétons ne sont pas des automobilistes. Mais tous les automobilistes sont des piétons. Alors, l'automobiliste, il devient piéton au moment où il descend de sa voiture, tout simplement.
Voilà. Il suffirait effectivement peut-être de l'afficher un peu partout dans toutes les villes où la place du piéton est réduite. Merci de nous avoir rappelé cet adage, Jean. Alors, ceci dit, quand on voit que Téhéran, en Iran, organise un colloque sur le piéton dans la ville, et vous invite d'ailleurs, Jean-Jacques Terrain, on se dit quand même que tout n'est pas perdu. Les mentalités évoluent.
Là, sur la question de Téhéran, je serais assez prudent en la matière. Parce que le chaos est tellement total que je ne sais pas par quel bout il pourrait prendre le problème. Mais ce qui est intéressant dans les quelques discussions que j'ai pu avoir avec certains de mes collègues, c'est qu'il y a une vraie demande, une vraie... Mais je suis pas sûr qu'elle soit encore politique.
Et c'est pour ça que... Des habitants, des citoyens de base.
Oui. Et quand on voit, on se balade dans le bazar de Téhéran et autour du bazar, on s'aperçoit qu'il y a une vie extrêmement intense et que les gens sont très attachés à cette vie. Je pense que il y a un urbaniste italien qui parle de globalisation par le bas. Et je pense que là... L'espace public ne peut se globaliser que par le bas, par les gens, et pas par le...
Encore faut-il aussi démontrer que, comme vous dites, cette vie, c'est aussi du commerce, de l'économie qui fonctionne mieux, et donc ça pourrait être très intéressant de donner plus de place aux piétons.
C'est ce qu'on...
Mais alors, est-ce que justement, ma question s'adresse à vous, à Makoé, est-ce que la vie du piéton dépend de la santé financière d'une ville, ou pas forcément, finalement?
Moi, je vais toujours reprendre l'exemple des villes africaines, la santé financière d'une ville, oui, mais il faut que cette sensibilisation dont on a parlé tout le long de cette émission-là, puisse effectivement être une réalité, parce qu'on a il y a beaucoup de villes en Afrique où on a des rues effectivement, il y a des trottoirs. On ne peut pas dire que ces trottoirs n'existent pas. Donc, quelque part, quand on a construit ces rues-là, on a pensé à un trottoir aux piétons. Mais seulement, ces trottoirs aujourd'hui sont occupés par autre chose que le piéton. Alors, ce que je voulais dire là, sur la prise de conscience des habitants, des individus dans les villes, parce que les pouvoirs publics sont aujourd'hui absents dans certaines villes, dans beaucoup de villes, disons-le. Donc, dans certains quartiers, c'est les habitants qui se prennent en main, ne serait-ce que pour des problèmes de sécurité. Vous voyez, quand c'est pas encombré, les voitures vont vite et les piétons ne peuvent pas traverser, ils se font renverser, les enfants ne peuvent pas traverser d'un bout à l'autre pour aller à l'école. Donc, dans certains quartiers, c'est les habitants qui mettent en place des systèmes de gendarmes couchés pour pouvoir réduire la vitesse de circulation des modes motorisés. Donc, c'est les habitants qui se prennent en main parce que l'administration centrale, le pouvoir public est défaillant. Donc voilà un peu des trucs aussi qui se font maintenant. Et parfois, ça se fait dans des conditions techniques.
Ça bouge, hein, au nord comme au sud. Et dans les villes du nord, si je vous demandais une image en un mot, Jean-Jacques Thérin, d'une innovation qui est en train de se mettre en place, par exemple là, pour le bonheur des piétons, qu'est-ce que ça serait ? Les Africains réclament des trottoirs. Au nord, on est plutôt en train de les effacer.
Ce qui est curieux, c'est que il y a une espèce de jeu de ping-pong qui se fait. C'est-à-dire que les Européens, les villes européennes les plus avancées inventent l'espace partagé, qui est celui que l'on trouve en Asie, en Afrique.
Et autrement. Merci à tous les deux. Amako et Adolé Oumé, vous êtes spécialistes des transports, École des Ponts et Chaussées, Marne-la-Vallée, et puis l'Université Lyon 2, Jean-Jacques Thérin, architecte. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'aménagement des villes du monde, il faut lire Le piéton dans la ville, l'espace public partagé, édition bilingue français-anglais, et c'est publié chez Parenthèse. Toutes les références sont bien sûr notées sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission consacrée aux mamans débordées. Elles travaillent, elles gèrent la maison, les enfants, la vie sociale et parfois même leur mari. Tous vos témoignages dans l'émission à 10h10, temps universel. À demain.